La Plume dans la Balance, une émission de Denis Salas. Et aujourd'hui, je reçois Jérôme Michel. Jérôme Michel, vous êtes conseiller d'État, vous enseignez le droit public à l'Université de Paris-Cité et à l'Université du Caire. Vous avez publié chez Michelon trois essais consacrés à Léon Blum, François Mauriac et André Malraux. Et je vous invite aujourd'hui pour un nouvel essai consacré à Simon Leys que vous avez intitulé « Vivre dans la vérité et aimer les crapauds » aux éditions Le Bien Commun, aux éditions Michelon, pardon, Le Bien Commun, dirigé par Adeline Baldacchino et fondé par Antoine Garapon. Nous serons également avec Sandra Travers de Faultrier, que nous retrouvons à la fin de son émission pour sa chronique Droit et littérature. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Denis.
Je pense que les idiots disent des idioties, c'est comme les pommiers produisent des pommes, c'est dans la nature, c'est normal. Le problème, c'est qu'il y ait des lecteurs pour les prendre au sérieux. Et là, évidemment, se trouve le problème qui mériterait d'être analysé. Prenons le cas de Mme Machocchi, par exemple. Je n'ai rien contre Mme Machocchi personnellement, je n'ai jamais eu le plaisir de faire sa connaissance. Quand je parle de Mme Machocchi, je parle d'une certaine idée de la Chine. Je parle de son œuvre, pas de sa personne. Son ouvrage de la Chine, c'est ce qu'on peut dire de plus charitable, c'est que c'est d'une stupidité totale. Parce que si on ne l'accusait pas d'être stupide, il faudrait dire que c'est une escroquerie. De la Chine repose essentiellement sur deux hypothèses fondamentales, qui sont présentées non pas comme des hypothèses, mais comme des données de fait. L'une, et je cite de mémoire, c'est dans le texte, c'est que le peuple chinois, le peuple de Mao, est une humanité sans péché, qui l'a sauvé du péché, qui l'a délivré de la condition humaine qui est notre lot commun, on ne sait pas trop, c'est Mao, semble-t-il. Du fait que c'est une humanité sans péché, découle tout normalement des faits, comme Mme Machocchi constate avec émerveillement, qu'en Chine, les ouvriers refusent les augmentations de salaire et estiment que des organisations syndicales sont superflues. Les paysans pratiquent la philosophie et la pensée de Mao fait pousser les cacahuètes.
Mais je n'écris pas ça, monsieur.
Vous l'écrivez, madame.
Qu'elle ne fait pas se pousser. Vous me donnez la page, alors, tout de suite.
Hein?
Parce que, non, vous devez être sérieux, là. Vous devez dire ça, dans la page.
Vous expliquez comment la dialectique augmente la production dans les campagnes.
Parce que l'escroquerie ne sera pas de mon côté à ce moment-là, parce que je n'ai jamais écrit ça.
Vous écrivez
je vous défie
la dialectique maoïste.
Envoyer. Mais la dialectique,
la
vous parlez
agricole.
D'autre chose. Mais je vous défie.
Madame Machocchi, vous avez parlé beaucoup
ce soir. La page et la ligne.
Attends, je
et la ligne où j'ai dit ça.
Attendez, je peux pourrez lui répondre.
Non, alors, mais je ne peux pas, c'était des bêtises.
L'autre point,
enfin, excusez-moi.
L'autre point, plus fondamental encore, c'est évidemment ce mythe que le maoïsme, c'est, au fond, c'est la rupture avec le stalinisme.
Voilà,
le maoïsme. Bon, ça va à l'encontre de toute l'évidence historique connue de tout le monde. Si vous donniez la peine simplement de lire les œuvres de Mao, vous y trouveriez déjà le démenti. Je lis simplement des petits passages, un petit passage dans les œuvres de Mao que vous auriez peut-être pu lire, celui-ci date de 1958. Ce n'est qu'en suivant la voie indiquée par Staline, en acceptant l'aide de Staline, que l'humanité pourra enfin se libérer du malheur. Staline est l'ami fidèle et sûr de la libération du peuple chinois, etc., etc.
Bien, votre livre, Jérôme Michel, n'est pas, comme vos précédents ouvrages, consacré à des auteurs classiques comme Mauriac ou Malraux, pour lesquels nous vous avons reçu dans cette émission. Alors qu'à l'opposé, Simon Leys, qu'on vient d'entendre dans l'émission de Bernard Pivot apostrophe le 27 mai 1983, est un écrivain spécialiste de la Chine, mais aussi iconoclaste, intransigeant et, on vient d'entendre à quel point, polémiste. C'est cette réplique sanglante envoyée à Maria Antonietta Marchiocchi pour son livre « De la Chine » que, effectivement, on vient de mesurer son talent polémiste. Mais ce que vous montrez également, Jérôme Michel, c'est qu'au-delà de son livre fameux, « Les habits neufs du président Mao », Leys est un navigateur entre les mondes, un esthète, un critique d'art, un lecteur universel, que l'on retrouve dans son dernier essai « Le studio de l'inutilité », paru en 2012, où se côtoient Simone Veil, Chesterton, Ségalène, Conrad, Henri Michaud et surtout son alter ego, George Orwell. On reviendra sur ces différents auteurs dans le cours de notre émission. Mais avant tout, Jérôme Michel, une première question. Qui était Simon Leys, alias Pierre Rickmans, si je vous ai bien lu?
Merci Denis. Simon Leys, donc, est un nom, est un pseudonyme que Pierre Hickmans, qui est un citoyen belge, un sinologue, je vais y revenir, s'est doté au moment de publier ce qui allait devenir son livre, en tout cas le plus célèbre, le plus fameux, Les habits neufs du président Mao. Simon, parce que c'est l'autre nom de Pierre, et Les, c'est un hommage rendu au roman de Victor Segalen, publié à titre posthume en 1921, qui raconte les aventures d'un Belge, d'ailleurs, d'un jeune Belge qui introduit progressivement le narrateur à l'intérieur de la cité interdite, justement, et lui révèle les arcanes du pouvoir impérial. Pierre Hickmans, donc, est né en 1935 à Bruxelles, dans une famille favorisée. Son grand-père était échevin de la ville d'Anvers, puis sénateur du Sénat belge. L'un de ses oncles a été gouverneur du Congo. Il a d'ailleurs rendu visite au début des années 60. Un autre de ses oncles est un spécialiste de l'épigraphie orientale. Et son père était versé dans le commerce avec l'Afrique et a fini sa carrière comme directeur des éditions Brûlant, bien connu des juristes à Bruxelles, à l'ombre du magnifique et imposant palais de justice de la capitale du royaume de Belgique. Simon Les a vécu donc son enfance et son adolescence dans un milieu favorisé au quartier de Uccle à Bruxelles, était destiné au fond à devenir, ou à prendre un peu la suite paternelle, à devenir avocat ou en tout cas à travailler dans le monde juridique, jusqu'à ce qu'intervint un événement en 1955 qui a totalement bouleversé et déterminé le reste de son existence. Étudiant en droit et en histoire de l'art à l'université de Louvain, Simon Les fait partie d'une délégation qui est invitée par le jeune gouvernement de la République populaire de Chine à se rendre pour quelques semaines en Chine. Et l'objectif était que toutes les composantes de la jeunesse bruxelloise et belge soient représentées. Et à ce titre, le jeune Pierre Hickmans représente au fond les catholiques démocrates, on va dire ça comme ça, dans cette délégation. L'important n'est pas tellement cela, c'est la rencontre foudroyante avec la Chine en 1955. On est donc 6 ans après la proclamation de la République populaire par Mao Zedong en octobre 1949. La délégation d'ailleurs va cheminer à Xi'an, à Suzhou, à Shanghai, à Pékin bien sûr. Ils vont même rencontrer, les jeunes Belges vont rencontrer Chuen Lai, qui vont être reçus très simplement d'ailleurs par le Premier ministre de l'époque, donc le Premier ministre de Mao Zedong. Et pour Simon Les, au-delà de l'intérêt ou de la curiosité que provoquait ce voyage en Chine, c'est d'abord la rencontre foudroyante avec un monde, tout un monde, en quelque sorte, tout autre.
Et c'est ainsi que Hickmans devient laïc.
Pas encore. Ouais. De retour en Europe, après ce premier séjour en Chine, Pierre Hickmans, qui n'est pas encore Simon Les, n'a qu'une seule conviction, il faut apprendre le chinois. Et il se met avec avidité à l'étude de la langue chinoise, dont qu'il parlera parfaitement par la suite, à l'étude de la culture chinoise et avant tout de la poésie et de la peinture. Et il va devenir l'un des grands spécialistes de l'esthétique chinoise, notamment en ayant publié, qui est peut-être son plus beau livre en réalité, bien plus important peut-être sur la longue durée que Les habits neufs du président Mao, c'est la traduction et le commentaire du traité sur la peinture du moine Citrou Shi Tao, un des plus grands peintres chinois du 18e siècle. Simon Les part ensuite en Asie, et il va s'immerger complètement vraiment dans le monde sinisé, alors pas en Chine populaire, puisque à l'époque, celle-ci, c'est au début du grand bond en avant, en 1958, et territoire interdit, donc il va s'installer d'abord à Formose, on disait encore Formose à l'époque, avant que ce soit Taïwan. Au cœur de l'actualité encore aujourd'hui, puis à Singapour, puis enfin il arrive à Hong Kong, en 1965, où il épouse une chinoise, Han Chengfeng, qui est une journaliste chinoise qui va être son épouse pour le reste de son existence. Et c'est à Hong Kong qu'il va être confronté très rapidement, en printemps 1966, aux premiers échos de la révolution culturelle déclenchée par Mao Zedong au printemps 1966. Et pour, au fond, arrondir ses fins de mois, Simon Lay, Pierre Hickmans, encore, oui. qui n'est pas encore Simon Lay, s'accepte, au fond, de travailler contre rémunération pour fournir au consulat de Belgique des notes de synthèse, en quelque sorte, hein, des fiches, rédigées à partir de la lecture et de la traduction de la presse chinoise continentale, oui. qu'il peut se procurer ou qu'il arrive à se procurer, et également de la presse chinoise du monde hors de la Chine communiste, de Hong Kong, de Singapour.
Et
ou
ces notes Taïwan. Sont des notes diplomatiques classiques ou des notes déjà très critiques, très analytiques ?
Non, c'est vraiment un déchiffrement. Ce qui se passe à partir D'accord. de la presse du Parti communiste, de la presse des gardes rouges, de la presse des associations diverses et variées, de la presse de l'armée chinoise, que très rapidement, Simon Lay, qui donc
décrypte l'avènement du maoïsme,
se rend compte qu'en réalité, il y a un hiatus entre ce qui se passe réellement en Chine et la perception que l'Occident va en avoir. Pour l'Occident, la révolution culturelle, c'est la tentative prométhéenne de Mao Tse-tung de rupture avec le stalinisme, qu'on a entendu dans l'extrait à l'instant, supposée rupture avec le stalinisme, une tentative prométhéenne, au fond, de faire table rase de la culture, du passé, pour construire un homme nouveau.
D'accord, tout à fait. Alors, il faut qu'on avance un petit peu. On arrive en 1971, où Lay publie « Les habits neufs de l'empereur ». J'aime beaucoup votre analyse de ce titre, parce que vous évoquez le fait que c'est tiré d'un conte d'Andersen. Mmh. Deux escrocs persuadent l'empereur, amateur de beaux habits, de lui fabriquer un vêtement dans une étoffe extraordinaire, qui ouvre le chatoiement de ses couleurs et la somptuosité de son dessin, mais ce vêtement est invisible et le roi était nu. L'empereur était nu. Et tout en constatant individuellement que le monarque est nu, tous se persuadent collectivement qu'il porte bien ses magnifiques habits neufs, piégés qu'ils sont par l'illusion née de la peur. Donc l'illusion née de la peur nous fait comprendre, nous fait croire que l'empereur est habillé alors qu'il est effectivement nu. Et c'est un enfant, un simple enfant, qui dit « mais cet empereur est nu et permet ce qui permet de rompre le charme ». Donc les habits neufs du président Mao, avec ce titre magnifique, est à l'origine de cette fable d'Andersen. C'est aussi une autre origine que vous évoquez, qui est le choc que Lay vit, vous allez me dire à quel moment, de l'assassinat de Lin Bing, appelé le traître, qui est assassiné quasiment sous ses yeux. Et un ami de Lay, Pierre Bonsen, dit que c'est l'acte de naissance de Simon Lay. Est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Oui, complètement. Simon Lay n'aurait pas dû faire de la politique. Il n'a pas d'opinion politique, en tout cas affichée, si ce n'est à l'époque une vague sympathie pour la gauche, on va dire, pour la gauche démocratique. Mais sa vie, c'est la peinture chinoise, sa vie, c'est la poésie chinoise, sa vie, c'est la Chine. Et c'est effectivement en étant à Hong Kong, au début de la révolution culturelle, qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, travaillant sur le décryptage de la presse communiste au bénéfice du consulat de Belgique, qu'il prend une conscience de ce qui se passe, de la réalité des faits, de ce qui se passe en Chine, et par ailleurs, il va recueillir le témoignage de réfugiés de Chine communiste qui lui racontent ce qui est en train de se passer dans l'espèce de chaos de la révolution culturelle. Et effectivement, il va voir la politique en acte, en quelque sorte, un beau matin en 1967.
La violence du politique.
Un artiste de variété qui se moquait via Hong Kong, qui se moquait de Mao Tse-tung, est assassiné quasiment sous ses yeux avec une bombe incendiaire. Il brûle vif dans sa voiture. Et à partir de ce moment-là, il se dit « je ne peux pas rester au fond à l'écart ».
Il dit « c'est devant ma porte ».
C'est ça, c'est devant chez moi, et je ne peux pas ignorer ce qui se passe et je dois le clamer. Je dois le clamer. Pourquoi ? Parce que quand il découvre tous les matins, je suppose, la presse occidentale, et à l'époque, il faut rappeler ce que l'on pouvait lire dans Le Monde, le premier journal maoïste de France, Le Nouvel Observateur.
Qui était le journaliste du Monde qui couvrait...
Il y avait plusieurs...
Mais qui étaient de tendance sympathique. à l'égard du maoïsme.
Daubier et d'autres Et au fond, dans cette affaire-là, Simon Lay, c'est l'enfant du comte d'Andersen.
C'est ça.
Alors que l'Occident a les yeux de Chimène à gauche, comme à droite, on dira peut-être un mot tout à l'heure, hein. Pour Mao Tse-tung, Lais dit, mais non, ce n'est pas du tout le génie de l'humanité, l'humaniste dont parlait François Mitterrand, le phare de l'humanité dont parlera plus tard, au moment de sa mort, le président Valéry Giscard d'Estaing.
Le phare de l'humanité.
Ni le géant qu'avait pu évoquer Malraux, non. Lais dit, c'est un autocrate que vous avez devant vous, et toute la thèse, en quelque sorte, des habits neufs du président Mao, qui est une chronique de la révolution culturelle telle qu'elle est racontée à travers la presse communiste chinoise, tient en quelques lignes, dans l'avant-propos des habits neufs, la révolution culturelle qui n'eut de révolutionnaire que le nom et de culturel que le prétexte tactique initial fut une lutte pour le pouvoir menée au sommet entre une poignée d'individus derrière le rideau de fumée d'un fictif mouvement de masse.
Alors justement, il faut qu'on entre dans la problématique de Lais. Pour lui, il est en face d'une idéologie meurtrière à travers le maoïsme. Et ce qu'il dit également, c'est lié au conte d'Andersen et aux habits neufs. Il dit que nous ne voyons plus les faits tels qu'ils se montrent à nous, observateurs, mais nous voyons la manière dont l'idéologie colore les faits ou travestit les faits, ce qui effectivement est contenu dans votre titre, vive dans la vérité. Est-ce que c'est pas là le centre même de votre analyse de l'œuvre de Lais?
Oui. Simon, enfin, je l'ai emprunté, le premier membre du titre, quelque sorte, le membre de phrase du titre, est emprunté à un recueil d'essais, de traduction d'essais de Liu Xiaobo, prix Nobel. Chinois, mort en 2017, prix Nobel en 2010, qui s'intitule simplement « Vivre dans la vérité », qui est un recueil d'articles de quelqu'un qui, justement, a voulu dire en permanence la vérité, d'abord la vérité des faits tels qu'ils se présentent à nous, sans préjugement préalable. Simon Lais, au fond, c'est ça. Il nous dit, en 1971, puisque le livre raconte, en l'été, là, c'est une chronique qui va de 1967 à 1969, qui est publiée dans des conditions un peu rocambolesques d'ailleurs, en 1971, aux éditions Les Bovici, l'éditeur des situationnistes, il nous dit non, Mao n'est ni cet humaniste, ni ce phare de l'humanité, c'est un dictateur épouvantable dont la carrière criminelle a commencé bien avant d'ailleurs la révolution culturelle. Le grand bond en avant, 1958, la grande famine provoquée par la folie idéologique de Mao Tse-tung qui prétend rattraper le niveau industriel de l'Angleterre en l'espace de 10 ans et qui va provoquer une famine qui va faire des dizaines de millions de morts tués par l'idéologie maoïste. Mais oui, c'est l'enfant du comte d'Andersen qui vient dire mais le roi est nul, les beaux habits n'existent pas, c'est un dictateur. Et pour cette phrase-là, pour cette thèse-là, Simon Lais va devenir le paria du monde intellectuel occidental. Le paria, il faut imaginer, on n'imagine pas aujourd'hui la haine que le nom de Simon Lais a suscité à gauche. Et il faudrait reprendre en permanence le nombre de propos haineux dont il a été l'objet de la part de toute la presse, à l'exception de deux noms, je tiens à leur rendre hommage, Étiamble, d'une part, Claude Roy, d'autre part, qui ont été les seuls pratiquement à défendre Simon Lais. Sinon, il a été traîné dans la boue, accusé d'être un espion de la CIA, de n'y connaître rien.
Y compris chez les historiens du monde chinois.
Et alors notamment, je crois que c'est ce qui l'a le plus chagriné, c'est que parmi ses collègues universitaires, sinologues, donc à un titre ou à un autre,
l'objectivité de l'historien aurait dû le défendre.
Pire. Il aurait dû être nommé à l'université de Paris 8, et il y a eu un barrage littéral de tous ses collègues pour qu'il ne soit pas nommé en France.
Et vous ne pensez pas que
d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est parti
en Australie. Mais son côté intransigeant et volontiers polémiste n'a pas peut-être aidé à ce que le dialogue se noue aussi.
Je crois simplement c'est qu'il démontait la fable. Il démontait la fable et comment dirais-je, levait le voile sur la réalité criminelle du régime maoïste.
Mais il y a une autre leçon que je trouve intéressante dans votre livre. Vous évoquez le propos du philosophe Kolakowski, « Les intellectuels sont les gardiens du sens des mots ». Il évoque aussi Orwell, dont on reparlera, à travers le réel, voir le pur mensonge, ce que fait le maoïsme, ce que vous avez décrit, et il reprend ce mot d'écrire le pôle Nord sans utiliser le mot glace, ou le Sahara sans utiliser le mot sable. C'est très fort comme expression concrète. Le réel disparaît derrière l'idéologie, c'est ça l'idée.
Et Simon Lais pour Simon Less, il n'y a que le réel. Au fond, l'idéologie, il s'en fiche. Il lui importe de ne pas rompre avec le réel, de rester en quelque sorte arc-bouté au réel. Ça, il l'emprunte d'ailleurs, c'est dans un très beau texte sur Chesterton, dont on parlera aussi éventuellement. Il ne faut jamais en démordre sur le réel. Et c'est d'ailleurs en ce sens qu'il rappelle que pour Chesterton, le plus beau poème jamais écrit dans l'histoire de la littérature, c'est l'inventaire auquel procède Robinson Crusoe après son naufrage, une scie, un fromage de Hollande, etc. Parce que c'est ce qui nous permet, au fond, d'être présents au monde et de ne pas perdre la raison.
Mais est-ce que vous pensez que la prophétie, enfin, l'analyse de Leys et en même temps sa prophétie qui proclame l'anéantissement des cultures chinoises se vérifie aujourd'hui? Il y a quand même énormément de présence du monde chinois, de la culture chinoise dans des œuvres philosophiques et littéraires, celle de François Julien ou celle de François Cheng. Est-ce que là, du coup, même si le réel politique plaide en faveur de Leys, est-ce que la culture chinoise n'est pas quand même préservée par des talents intellectuels aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, lisez Liu Xiaobo. Davantage que M. François Julien. D'ailleurs, Simon Less n'avait pas beaucoup de sympathie pour François Julien. C'est le moins que l'on puisse dire. Pour Cheng, en revanche, oui. Non, Liu Xiaobo dénonce le vide éthique, le vide moral dans lequel est plongée la Chine présente. Hein, la Chine de
Rappelez
Xi Jinping.
Qui était Liu Xiaobo, quand même.
Liu Xiaobo, c'est un écrivain, un poète chinois, dissident, l'une des grandes figures de la dissidence à partir de 1989. Donc c'est vraiment quelqu'un qui prend en 1989 le parti de la démocratie qui est écrasé sous les chars le 4 juin 1989 et qui ne cessera, notamment par l'Internet, hein, de publier de très nombreuses analyses sur la Chine présente. Notamment, je recommande aux lecteurs La philosophie du porc, qui est une belle traduction de Jean-Philippe Béja, sinologue remarquable. La philosophie du porc qui décrit justement l'état de déshérence de la culture chinoise. Au fond, d'une certaine manière, le capitalisme communiste, on va dire ça comme ça, l'économie socialiste de marché, n'ayons pas peur des apories, telle que la Chine se présente au monde, achève la destruction de la culture chinoise initiée par Mao Zedong, non pas seulement au moment de la révolution culturelle, mais il faut remonter bien avant pour voir les prodromes de la destruction de la culture chinoise dans les causeries sur la littérature de Yan'an en 1942.
Alors simplement, une citation de Liu Xiaobo: les porcs s'endorment quand ils sont rassasiés et mangent quand ils se réveillent. Elle les maintient, elle, c'est l'idéologie, l'absence d'histoire, l'économie en l'occurrence, elle les maintient au mieux au stade des besoins primaires, alimentaires et sexuels, sans leur laisser le droit à de plus grandes ambitions. C'est ça la philosophie du porc. Détruire la citoyenneté et flatter les besoins primaires.
C'est ça.
Pour asservir complètement la population.
Et avec interdiction absolue, et c'est un des tabous du régime, d'évoquer le passé. Le passé est confisqué par le régime, il est réécrit par le régime, qui seul en donne l'interprétation authentique. Et il est hors de question que n'importe quel citoyen puisse réévaluer, inventorier l'œuvre de Mao Tse-tung. Si vous allez à Pékin, c'est assez extraordinaire. Ça reste quelque chose de stupéfiant quand même. L'un des plus grands criminels de l'histoire du XXe siècle, le portrait de ce criminel, joufflu, rose, orne toujours le fronton de la cité interdite sur la place Tiananmen. Voilà, c'est-à-dire on résume au fond, d'une certaine manière un peu brutale, un peu caricaturale, je le concède, mais l'espèce d'hypnose dans laquelle la Chine a réussi à plonger le reste du monde vis-à-vis d'elle-même. Il est impossible aujourd'hui, on a très peu de discours réellement critiques. Il y avait celui de Simon Less, il y avait celui de Liu Xiaobo, il y a celui de Jean-François Bitter, je le signale au passage. Mais sinon, ce qui est très frappant, c'est l'espèce de pudeur, pour ne pas dire les craintes de jeunes filles de la plupart des pays occidentaux vis-à-vis d'une Chine qui fait peur, au fond aujourd'hui, qui fait peur.
Et comment fini, est-ce que Liu Xiaobo a pu récupérer son Nobel? Comment a-t-il
Il est mort. Il a été libéré, il était atteint d'une maladie incurable. non soigné en prison. Il a été autorisé à être élargi dans un hôpital. Mais il est mort en 2017 dans une sorte de silence assourdissant, comme l'on dit souvent, de la part des belles consciences occidentales qui n'ont pas eu de mots, en tout cas. À l'exception, là aussi, heureusement, il y a toujours des exceptions. Je pense à Pierre Aski, par exemple, qui a écrit un beau livre sur Liu Xiaobo. Mais Liu Xiaobo, qui est une sorte de maître de conduite à la chinoise, comme Simon Less a été un maître de conduite dans le monde intellectuel occidental, n'a eu droit qu'à très très peu d'hommages.
Maître de conduite, donc, qui montre effectivement la voie pour combattre la vérité, et ces deux vertus que signale bien le numéro que commentaire consacre au tombeau de Simon Less avec Philippe Reynaud et François Sureau, avec ces deux vertus que sont le combat pour la vérité, la regarder en face, même quand elle fait peur, et non pas les discours qui la masquent, ce que vous venez d'évoquer, et en même temps le courage à la vérité, ce que Foucault appelait le parésiaste, c'est-à-dire l'affronter publiquement, au lieu de passer sans la voir et de vivre tranquillement.